Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Cette semaine, l'histoire autrement. Assassin's Creed Unity, un jeu vidéo sur la Révolution française.
Assassin's Creed.
Oh, incroyable, Paris reconstitué, c'est sublime. Hein?
La Révolution française, son réalisme et la qualité de la résolution des images, pas du HD, ça c'est un jeu vidéo absolument renversant.
Voici qu'Ubisoft, la grande société canado-française, pardon, il faut dire franco-canadienne, sort un nouvel épisode d'Assassin's Creed qui se déroule entre 1789 et 1794, lorsque les personnages avaient pris pension aux Caraïbes, chez les pirates, ou frayaient avec Washington pendant la guerre d'indépendance américaine. Cela n'avait guère fait de bruit dans le landerneau médiatique. Mais, cette fois, les concepteurs ont franchi un seuil technique en fluidifiant le jeu et réalisé une prouesse en donnant une image approchante de Paris et de ses foules en mouvement. Le succès de la campagne de sortie tient à ses motifs de fierté. La consigne des dossiers de presse est d'ailleurs d'expliquer qu'ont travaillé sur l'affaire d'innombrables collaborateurs dans quelques 10 studios à travers le monde. Mais il y a autre chose. Il se trouve qu'en France, les récits historiographiques ont plié la Révolution dans un sens ou dans un autre. On n'entre pas dans cette période comme cela, et y introduire un jeu ressemble à un crime de lèse-majesté qui brouille les critères de sérieux. Jean-Luc Mélenchon, aussitôt, est intervenu vertement dans le débat qui s'ouvre, soupçonnant les concepteurs d'avoir choisi le camp contre-révolutionnaire. Mais après tout, autour des jeux vidéo se livre une bataille économique et culturelle d'une telle ampleur, on a bien le droit d'apporter des points de vue politiques. Et qu'autour d'eux, c'est ce qui s'enfin, un exercice critique au grand jour, on ne peut que s'en féliciter.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Clément Martin, bonjour.
Bonjour.
Que j'allais qualifier d'historien très inventif, notamment de la Révolution française, en témoigne votre dernier recueil d'articles, réédité en poche chez Vendémiaire, la Révolution, machine à fantasme. Vous aimez bien d'ailleurs que l'histoire soit réenchanté. Vous êtes un des rares historiens à vous intéresser à la fantaisie. Et un auteur qui s'appelle Bordage, oui, dont on pourrait parler avant de parler d'Assassin's Creed.
Oui, puisque l'histoire est en définitive un lieu où la fantaisie et la fantaisie se mêlent. La fantaisie, c'est, il faut certainement le dire pour les lecteurs de plus de 35 ans, c'est un genre littéraire qui mêle d'une façon fantastique l'histoire réelle à la fiction la plus débridée. Et Pierre Bordage, auquel vous faites allusion, est un auteur de science-fiction mais aussi de fantaisie qui a, il y a maintenant 10 ans, publié une trilogie tout à fait intéressante qui se passe au moment de la Révolution et de la guerre de Vendée, dans laquelle un héros, dont on parlera sûrement, Émile, traverse énormément d'obstacles et de difficultés, mais a l'avantage, lui aussi déjà, de circuler de la Vendée à Paris sur un cheval volant.
Ah, comme les héros d'Assassin's Creed bondissent dans l'air. Émile, souvenez-vous, chers auditeurs de plus de 35 ans, a été recueilli par un prêtre peu conformiste qui l'a protégé des sectateurs de Mithra.
Eh oui.
Mithra, culte rendu dans l'Antiquité, à une divinité peut-être oubliée. Et il a été élevé au cœur du bocage, que vous connaissez si bien, en Vendée, dans la proximité des sirènes, filles de Mélusine, c'est-à-dire qu'il est contemporain de plusieurs temps, à la fois comme le héros d'Assassin's Creed. Il faut quand même que je dise que, historien inventif, ça vous a amusé d'être payé par Ubisoft pour travailler comme consultant à la fabrication de ce jeu.
Peu payé, parce que j'ai peu travaillé, mais mettons les choses quand même clairement à sa place. Le jeu a requis le travail certainement de plus d'un millier de personnes, ça a duré 3 ans. Moi je suis intervenu l'équivalent de 6 journées de travail.
C'est amusant d'être consultant historique. pour le cinéma comme fascinant. Pour un jeu vidéo.
Alors, le soyons sérieux, c'est absolument fascinant parce qu'on rentre dans un monde dont un historien universitaire ignore tout, et on rentre surtout dans un monde où ce que l'on étudie et qui est lu au grand maximum, et on en est content par 1000-2000 personnes, est vu, visionné là, par 8 à 18 millions de personnes. Donc on a changé complètement de dimension.
On parlait d'Émile, le personnage de Pierre Bordage, l'enjeu mineur, 30 000 exemplaires vendus. Parlons d'Arnaud, on ne va pas redire les chiffres des dossiers de presse sur la circulation du personnage. C'est comme Émile, quelqu'un qui est protégé par une secte venue du fond des temps, la secte des assassins, absolument, contre les templiers, oui, venus du fond des temps, absolument, et dont les dessins sont perpétuellement noirs.
Tout
et
à fait.
Il a vu son père assassiné.
Un petit mot quand même sur les assassins, les templiers, la secte de Mitra. On est dans une réutilisation continuelle de ce qui est le fond de la mythologie historienne de nos sociétés. Et ça, il faut jamais l'oublier. Une partie quand même des dignitaires nazis considéraient que la révolution était la suite de la secte de Mitra, précisément. Donc
on les rassurait par cette comparaison que vous venez de faire.
Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tous les cas, on baigne dans ce bain de fantasmes qui dure bien. Oui.
Alors, il voudrait venger son père assassiné, oui, son père adoptif, protecteur, oui, père de son ami d'enfance, Élise va mourir à son
assassiné.
Tour. Et il a un point commun avec Émile. Vous disiez que Émile se déplaçait sur
un cheval volant.
Et lui, comme toujours dans les jeux vidéo Assassin's Creed en particulier, il grimpe les façades. C'est un peu Sylvain Tesson, si vous voulez.
Hein, je ne sais pas qui c'est là.
L'écrivain, celui qui grimpe sur les tours de Notre-Dame. Oui. Clandestinement, c'est la même chose.
D'accord.
Qui arrive à Arnaud, et des positions élevées, on échappe aux adversaires et on voit des panoramas extraordinaires, le Paris de la Révolution française tel qu'il est décrit par un autre consultant, décidément Ubisoft a recruté, Laurent Turcot, universitaire de Montréal.
Comment les gens vivent dans la rue, les mendiants, est-ce que ça sent mauvais, la boue, les chevaux, la politesse? Où fait-on caca, par exemple? Où fait-on pipi? C'est des trucs de base qui, aujourd'hui, nous semblent évidents, instinctifs, mais qui, à l'époque, au 18e siècle, étaient complètement différents. Si vous marchez dans les rues à Paris au 18e siècle, c'est extrêmement dangereux parce qu'on vide les pots de chambre d'en haut et il y a des carrosses qui peuvent vous écraser. Donc, il faut être tous yeux, toutes oreilles. Et la grande difficulté du jeu vidéo par rapport au cinéma, c'est qu'au cinéma, vous avez toujours une trame narrative qui dirige tout. Vous suivez un personnage principal. Là, le joueur peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il faut reproduire un environnement extrêmement grand. Juste pour vous donner une idée, ils ont reproduit un périmètre d'à peu près 20 km carrés à une échelle de 1 sur 1. Donc, ils ont refait Notre-Dame en entier. Ça a pris 2 ans à faire Notre-Dame, le Palais du Luxembourg, le Jardin des Tuileries. C'est complètement fou.
Et le Notre-Dame d'avant le Viollet-le-Duc, le Notre-Dame sans l'orgue. Parce que l'orgue vient d'être refait, alors comme il a été restauré, il n'appartient pas au domaine public et représenter l'orgue aurait coûté trop cher à Ubisoft, dont vous disiez que c'est une société, Jean-Clément Martin, économe de ses deniers. Alors, le héros circule dans Paris, personne ne va croire que je sois un joueur de moins de 35 ans. Donc, j'ai demandé à Zachary Boubli, qui a travaillé dans notre équipe, d'être le gamer. Vous me pardonnerez si je dis joueur.
Pas de problème.
Zachary. Le joueur, il accompagne Arnaud, il le contrôle d'une certaine manière et lui sont demander des missions qu'il doit effectuer.
Oui, c'est pour faire avancer l'intrigue. Vous avez des missions scriptées où votre objectif change au cours de la mission à mesure que vous les accomplissez. La plupart du temps, la mission tourne autour d'un bâtiment qui est rempli d'ennemis. Vous devez y pénétrer pour assassiner quelqu'un ou voler quelque chose. Alors, le choix tactique vous appartient. Pour résumer, vous avez le choix entre vous infiltrer silencieusement sans trop de violence ou alors massacrer tout le monde sur votre passage, ce qui est plus bruyant, mais vous pouvez également choisir de combattre et d'être plus un guerrier qu'un assassin.
L'important, c'est d'avoir la main sûre pour pousser les portes ou pour tirer. Ici, vous, le joueur, vous êtes infiltré dans un hôtel. Zachary organise aussi des visites historiques le dimanche pour ceux qui cherchent à percer les secrets de Paris. Dans un hôtel du Marais, l'hôtel voisin.
Oui, on s'est infiltré dans les caves à la poursuite d'un criminel qui s'appelle Latouche. On doit le filer et on le voit qu'il rencontre d'autres sinistres personnages, en l'occurrence un dénommé Germain qui est un templier dissident et Marie Lévesque qui est une spéculatrice. Alors bon, vous comprenez rapidement qu'ils sont en train de comploter quelque chose. Et puis il parle de votre dulcinée, Élise de la Serre,
qui est la fille du père adoptif.
Voilà.
De Arnaud, vous suivez tous, hein, bien sûr.
Voilà, il parle de la faire tuer par un autre templier qui s'appelle Lafrenière. Donc vous allez devoir partir au plus vite de l'hôtel voisin pour la sauver. Le problème, c'est que l'hôtel est rempli de sans-culottes et que vous allez devoir vous frayer un chemin à coup d'épée.
Donc la scène du complot et ensuite le surgissement des sans-culottes.
Plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts.
Et la fille de Delasserre ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde.
Ce problème n'en sera bientôt plus un.
Et comment ?
Mademoiselle Delasserre se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire.
Et voici la section sans culotte.
Arrêtez-le ! Un espion du roi! Il y a un espion par ici!
Oh, c'est un espion, c'est un espion!
Non!
Je vais te déclarer mon voyou!
Je vais vous triper, chien de modéré! Grenade lancée!
Viens
à moi! Je dois te compagnie!
En enfer et en morceaux.
Alors voilà, Jacques Segal, qui est un réalisateur de plus de 35 ans, ne veut pas qu'on aille au-delà dans la bagarre. Il est vrai que le jeu aux États-Unis est déconseillé au moins de 18 ans. On utilise quel type d'arme, Zachary ?
Vous avez un grand choix. Vous pouvez combattre avec des armes à une main, des poignards, des couteaux, des épées. Vous avez également la possibilité d'utiliser des armes plus lourdes, des haches, des lances, des halbardes, des guisarmes, etc. Vous pouvez également tirer au pistolet ou au mousquet, c'est assez fascinant.
Jean-Clément Martin, on peut aussi avoir son arme personnelle qui vient du fond des âges.
Oui, mais moi je vais vous dire tout simplement que quand on regarde d'autres jeux, Great Theft Auto, quand on regarde World of Warcraft, quand on voit la bande-annonce du film qui s'appelle Exodus, qui est aujourd'hui dans les salles, je vais peut-être vous étonner un peu, et je le dis sérieusement, Assassin's Creed est vraiment peu violent. Est vraiment peu violent et ne joue pas trop, malgré tout, sur le pathos du sang versé et des flaques de sang.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Dans Assassin's Creed, nouvel épisode consacré à la Révolution française et lancé à grand fracas, nous y contribuons à notre manière, j'espère de manière critique, dans peu d'instants, il y a des ronds-points qui facilitent la circulation du joueur et du héros, Arnaud. Un petit peu comme il y a des ronds-points sur nos routes nationales et départementales. Alors il y a des points fixes. Il y a les chansons, par exemple, telles qu'elles étaient interprétées à l'époque par la foule. Mais on peut même pas, Zachary, se glisser dans la foule ?
Si, on peut. Alors on peut soit se cacher dans la foule pour éviter d'être repéré. On peut également la manipuler. On peut leur faire peur en dégainant son arme ou en assassinant des gens.
Mais je peux pas chanter. Je peux pas ajouter ma voix.
Non, ça vous ne pouvez pas.
Ah bon. Il y a quand même des améliorations à apporter. Mais ces ronds-points, finalement, ça n'a pas grande importance, Jean-Clément Martin, parce qu'entre nous, Arnaud et le joueur, mais ils s'en contrebattent de la Révolution. qui les intéresse, c'est leur petite histoire personnelle. Comment sauver Élise, comment venger le père d'Élise, etc.
Oui, mais c'est ça le principe aussi de la fantaisie, c'est-à-dire vous incarnez. Parce que ça, ça me semble important. Le joueur n'est pas un lecteur, si j'ose dire, passif. Il joue avec deux doigts ou avec trois doigts, je ne sais pas, je ne suis pas joueur. Non.
Mais vous avez peut-être plus de 35 ans, Jean-Claude Martin.
Un petit peu peut-être, donc avec six doigts. Bon. Il joue avec six doigts, trois de chaque main, sur une console. C'est-à-dire qu'il rentre vraiment dans le jeu et il a le choix des options, il a le choix de ce qu'il va décider de faire ou de ne pas faire. Donc on est dans un jeu, on n'est pas comme spectateur devant un film. Bon, donc il me semble qu'il faut avoir ça en tête pour comprendre que on est, je dirais pas, c'est pas on n'est pas devant un spectacle ordinaire. Et la trame historique sert. Pour qualifier le jeu, parce que Ubisoft apparemment est certainement là une des maisons qui tient le plus à une espèce de véracité historique. On pourra revenir là-dessus.
Non, mais c'est pas la peine. C'est dans le dossier de presse.
C'est dans le dossier de presse. Oui, bon. Mais en tous les cas, c'est que il y a là sur cette trame historique un jeu qui est, faut être franc, comme les autres.
Mais c'est un jeu d'individus. Allez, je vais faire un peu de morale, puisque vous vous y refusez.
C'est un jeu
dans une société d'individus qui conduisent leur destin personnel. Et alors, l'époque, c'est comme un bac à sable historique.
Oui. Mais attendez, excusez-moi, ça a toujours été vrai. Et la Révolution a toujours servi de bac à sable. Moi, je vous rappellerai quand même 1897, Georges Hatto. C'est le premier réalisateur de films sur la mort de Robespierre et de Marat en moins d'une minute. Bon, donc la Révolution a toujours été un bac à sable depuis 1794, et nous vivons là-dessus. Donc on continue, on s'est adapté aux jeux vidéo.
C'est l'histoire d'Arnaud, il se trouve qu'elle se déroule pendant la Révolution, voilà. Et Arnaud ne se plie pas à la Révolution. Arnaud, c'est un individu malin.
Il rentre, il participe un petit peu, il rencontre les grands personnages, Mirabeau le comploteur, Robespierre le méchant, il faudrait peut-être en dire deux mots.
Mais on va y venir.
Et puis Napoléon qui joue un rôle bizarre.
Oui, et souterrain au début, mais procédons par étapes.
Allons-y.
Au moment que nous avons choisi d'évoquer, Mirabeau est mort depuis longtemps parce que, il faut pas que nos auditeurs s'en étonnent, il est le chef. La secte des assassins, ça va de soi.
Oui, c'est un conspirateur, c'est normal.
Une fois qu'il est mort, on découvre ses secrets, l'armoire de fer. Voilà. Ça ne va pas peu contribuer à la chute de la monarchie que lui voulait soutenir à sa façon. Et après la chute de la monarchie, on en est maintenant à septembre 1792. Zacharie, ça va être les massacres de septembre au Grand Châtelet. Alors le personnage que vous avez choisi, c'est pas celui qu'aurait préféré Jean-Clément Martin, c'est le commissaire Rouille.
Oui, le commissaire Rouille me plaît beaucoup parce que c'est un vrai méchant de jeux vidéo à l'ancienne. Quand on le voit, il est en train de se moquer de la tête d'un garde national qu'il a posé sur une pique.
Ah oui.
D'ailleurs, on le voit assez souvent avec des têtes de gens sur des piques. Alors, donc après, vous êtes infiltré dans le Grand Châtelet, qui, d'ailleurs, vous pouvez apprécier qu'on ait reconstitué la forteresse, puisqu'à l'époque, elle n'était pas encore détruite. Et ben, vous allez le voir en train de se moquer d'une tête. Et donc, ça va vous fournir la distraction idéale pour éliminer discrètement ses sbires avant de l'égorger lui-même. Comme votre mission le stipule.
Donc, il rigole encore, rouille, il s'adresse aux têtes. Heureusement, bientôt, la guillotine fonctionnera à plein et ce sera plus propre.
Il a perdu du poids depuis sa dernière visite. Oh ! Ne me dis pas que tu boudes, gardien. Je suis terriblement désolé, gardien, mais... Nous n'avons pas trouvé le reste de sa personne. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez, chante, chante. J'aimerais entendre ta voix. Vive la Révolution.
Le député guillotin, dans la médecine, très mal et très malin, fit une machine pour budger le camp français.
C'est la guillotine.
Le passage que vous auriez spontanément choisi, ce ne sont pas les massacres de septembre, mais alors la guillotine. Alors vous avez un intérêt pour la guillotine, Jean-Clément Martin, dont vous dites qu'elle est un moment dans l'économie de la violence qui s'est mise en place à partir du XVIIIe siècle, parce qu'il faut mettre tout ça dans un continuum. Hein. La terreur n'est pas une monstruosité, bien sûr.
Mais surtout la guillotine, c'est... qu'on le veuille ou non, et là il faudrait qu'on se mette bien d'accord en France, un progrès considérable dans tous les pays qui ont accepté ou voulu garder la peine de mort. Et que les pays qui ont supprimé la peine de mort à l'époque, hors du grand-duché de Toscane, il y en a très peu. Donc, il valait mieux être condamné à mort, si vous me permettez de le dire comme ça, en France après 1791-92, qu'en Angleterre où on était dépecé, pendu, brûlé, jeté dans noyé, écartelé, etc. Donc, qu'on voit la guillotine comme le symbole de la révolution, ça se comprend, puisque la révolution a ensuite utilisé massivement la guillotine et les massacres pour tuer, grosso modo, au total 400 000 personnes en France, dont la moitié en Vendée, si on donne des chiffres estimatifs, mais à peu près cohérents, qui c'est considérable, c'est tout à fait important, c'est quand même moins que ce qui sera le lot des Français sous Napoléon, il faudra jamais l'oublier. Donc, mais on a affaire là à une fixation sur un objet qui traduit quoi ? Qui traduit que les Français, et depuis 200 ans, n'ont jamais fait leur deuil de la Révolution, c'est tout. Et que le jeu d'Ubisoft, eh bien, met le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il utilise ce passé qui ne passe pas en France pour mettre un héros inventé.
Et il utilise le mot génocide, le jeu Ubisoft?
Non. Alors là, ça a été signalé d'une façon très imprudente par Alexis Corbière dans un...
Corbière, c'est un responsable du parti de gauche.
Du front de gauche, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a utilisé, et là on est certain, parce que on a fait des recherches évidemment là-dessus, c'est une nouvelle qui vient d'un journal irlandais, Independent, qui reprend ça sur une bande-annonce d'un autre jeu mettant en scène un tireur fou, c'est le jeu s'appelle Atrid, et en aucun cas Robespierre, pour lequel on a utilisé le jeu a utilisé massivement des discours authentiques de Robespierre qu'on entend plus ou moins bien, qu'on comprend plus ou moins bien, mais il n'y a pas le mot terreur, il n'y a pas le mot massacre, il n'y a pas le mot tuerie, et évidemment il n'y a pas le mot génocide. Donc là, méfions-nous des sources.
Mais le mot génocide, on l'entend évoquer parfois dans telle ou telle émission de télévision sérieuse.
Ça, c'est un autre problème.
C'est-à-dire à propos de la Vendée.
À propos de la Vendée, et effectivement, vous mettez le doigt aussi sur un point, un passé qui passe mal. Et je pense que tant qu'à s'en prendre à des mauvaises utilisations de l'historiographie, Jean-Luc Mélenchon et le staff du Parti de gauche auraient mieux fait de s'en prendre à des émissions sérieuses qui ne résolvent pas les problèmes plutôt qu'à un jeu dont on sait à l'avance que c'est un jeu, parce que les assassins volants, excusez-moi, mais ça n'a jamais existé pendant la Révolution.
Alors, à Jean-Luc Mélenchon, il faut reconnaître beaucoup de mérite. Oui. C'est un des rares hommes politiques qui connaissent encore un peu l'histoire en France. Il a un blog sur lequel il a consacré à Assassin's Creed un article fort long où il documente toute son histoire personnelle, je le cite, d'honnête homme de la fin du XXe siècle, passionné par les jeux vidéo, comme par la fantasy, comme par la science-fiction. Mais alors, sur Assassin's Creed, que dit-il ?
C'est la propagande contre le peuple. Le peuple sont des barbares, des sauvages, sanguinaires. Et alors, en 89, il y avait les pauvres nobles, le roi, qui est un traître, soit dit par parenthèse. On a retrouvé des documents dans lesquels il appelait les armées ennemies à venir. Marie-Antoinette, cette crétine, qui est célébrée comme la pauvre petite fille riche. Et celui qui est notre libérateur, à un moment de la Révolution, car la Révolution dure longtemps, Robespierre, est présenté comme un monstre. C'est une relecture de l'histoire en faveur des perdants. Mais si vous regardez ça, vous dites, Ah, mais quelle horreur, le peuple qui change les institutions, mais comme ça me fait peur. Vive les monarques, les aristocrates, les privilégiés. Ça tombe bien, c'est eux qui ont le pouvoir encore aujourd'hui.
Et à bas Robespierre.
Oui, alors d'un mot quand même. Bon, moi, sur le fond, Mélenchon a eu raison de mettre cette question-là sur le devant de la scène, c'est très bien. Bon, maintenant, ce qu'il dit à propos de la bande-annonce, je le dis simplement, c'est faux. C'est-à-dire que quand on regarde le jeu n'a pas cette teneur idéologique. Ce jeu, c'est un jeu dans lequel il y a une population extrêmement disparate et la foule, c'est un décor, la foule, dans laquelle effectivement l'assassin passe en bousculant les gens. Donc la lecture contre-révolutionnaire portée par Assassin's Creed, je la trouve infiniment moins contre-révolutionnaire que les trois quarts des films qui sont tournés depuis 100 ans, quand même.
Quand même. Mettons-nous d'accord. Dans Assassin's Creed, il y a une société bonne, les assassins, une société hiérarchisée dans le mal, qui est mauvaise, c'est les Templiers. Oui, mais il n'y a pas la même hiérarchie entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires qui sont renvoyés un peu dos à dos, à égalité, violence. Qui, ça c'est une bonne question que pose Mélenchon, qui produit la déclaration des droits de l'homme dans le jeu?
Alors, de ce que je me souviens, on ne la voit tout simplement pas.
Bah voilà.
Oui, mais attendez, le problème. On a dit tout à l'heure que ce jeu utilisait la Révolution comme un décor, on est bien d'accord. C'est pas autre chose. On peut s'en plaindre, mais il faut accepter que ce ne soit qu'un décor. Et puis, deuxième chose, les assassins, ce que vous avez dit des Templiers, les assassins eux-mêmes sont divisés. L'objectif d'Arnaud, mais c'est comme un conte pour enfants. L'objectif d'Arnaud, c'est de venger son père et de se débarrasser des traîtres dans son camp. Il tue son mentor. Donc c'est en fait l'arrivée à maturité d'un jeune homme qui a vaincu tous les obstacles et que ces obstacles s'appellent Mirabeau, etc. C'est de pure convention.
Nos auditeurs qui sont arrivés à maturité à plus de 35 ans ont déjà suffisamment sursauté. Je leur indique qu'il n'y aura pas de suite consacrée à Napoléon, même si le personnage de Napoléon existe.
Oui,
souterrainement,
complètement
dans
inventé.
Assassin's Creed.
Bon, c'est fascinant. Moi, j'attends que les historiens s'intéressant et ayant travaillé sur Napoléon réagissent. Mais au passage, Napoléon est mis en scène dans un creux de sa biographie. On ne sait pas ce qu'il fait ce jour-là, au moment du 10 août. Et là, il y a une interprétation. Et moi, je laisse aux spectateurs le soin de découvrir la vérité que donne le jeu sur la mort de Robespierre. Personne ne sait ce qui lui a tiré dessus. Est-ce que c'est lui qui s'est suicidé? Eh bien, le jeu donne une solution.
Prochaine étonnante étape, ce sera l'Angleterre victorienne, me dit Zachary Boublik. Je remercie d'avoir préparé cette émission, ainsi que Damien Delettre qui nous a passé une
PS4.
Merci à vous, Jean-Clément Martin. Réédition définitive ou presque de votre livre sur la Vendée tout récemment chez Vendémiaire, la machine à fantasmes. L'émission a été préparée aussi par Frédéric Martin. La réalisation, Jacques Sigal, et à la technique, Elisabeth Collet.
Merci Jean Lebrun, on vous retrouve demain pour une nouvelle diffusion de La Marche de l'Histoire. Elle sera consacrée à Mara Goyer, professeur d'histoire, de géographie et d'éducation civique. À suivre, le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.